Ben, c'était à glacer le sang, des insultes misogynes au salut nazi, à des drapeaux de la fierté brûlée, au harcèlement et à la violence envers les personnes trans, la montée du masculinisme et la haine dans nos écoles. C'est inquiétant. Selon une enquête britannique menée en 2024, là, c'est pas ici, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Alors, c'est une enquête qui est citée dans l'ouvrage. 80% des élèves interrogés ont déclaré avoir été témoins de propos homophobes en milieu scolaire. 80%. En parallèle, alors que des mouvements réactionnaires dénoncent la soi-disante propagande omniprésente, les témoignages d'enseignants au Québec indiquent que le temps réellement consacré en classe aux enjeux de sexualité, d'identité de genre, se limite bien souvent à moins d'une heure durant toute l'année scolaire. Alors, dans son ouvrage intitulé « L'école, champ de bataille », publié chez Lux Éditeur, le professeur et chercheur Francis Dupuy-Déry s'intéresse aux attaques antiféministes et antidiversité qui secouent le milieu scolaire. Nous le recevons aujourd'hui pour faire la lumière sur ces tensions qui traversent nos écoles. Ah, mon Dieu, Francis Dupuy-Déry, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Ah, pourquoi qualifier... Ben, en fait, oui, on a la réponse, mais on va poser la question quand même. Pourquoi qualifier aujourd'hui l'école de champ de bataille?
Ben justement parce qu'il y a tous ces tensions et cette violence, on va appeler ça de la violence hein, quand même,
verbale. C'est violent, ce qu'on lit, c'est violent. Là, oui.
Dans l'école, par des élèves sexistes, homophobes et transphobes. Et puis dans le livre, donc en fait, le livre est très simple, hein, il est divisé en seulement deux chapitres.
Ouais.
Le premier chapitre, donc le deuxième chapitre, c'est sur ces jeunes-là.
Mm-hmm.
Et que font-ils, qui sont-ils, pourquoi feraient-ils de telles choses? Et le premier chapitre, c'est sur les adultes. Donc, ce que je montre, c'est aussi en portant attention surtout à trois pays, donc ici, le Québec, la France et les États-Unis, parce qu'on est influencé, il y a des choses similaires qui se passent, et bon, bref, il y a des idées même mauvaises qui circulent, il y a de l'imitation, c'est qu'il y a des adultes, donc c'est un chapitre sur les adultes sont mobilisés contre l'école, contre, en fait, ce qu'ils pensent être une sorte d'endoctrinement des jeunes, hein, et c'est pas nouveau.
Ouais.
Dès qu'il est question de sexualité à l'école, depuis 100, 150 ans, ça fait polémique, que ce soit à l'époque, on appelait ça, je pense, l'hygiène sexuelle, donc les cours d'hygiène sexuelle au tout début du 20e siècle. Là, c'était des cours de biologie, dans le fond, un peu de mécanique. Mais dès qu'on parle de sexualité à l'école, il y a des adultes qui s'enflamment. Et donc, j'ai montré que l'adulte en chef, donc Donald Trump, est un peu une figure emblématique de ce mouvement réactionnaire, mais qu'il y a bien des associations, des groupes de parents catholiques, d'autres politiciens qui sont mobilisés contre, principalement en fait contre ce qu'ils appellent l'idéologie du genre à l'école.
Moi, j'ai des gens que j'entends là, on s'entend, là, mais j'entends déjà des gens me dire « l'adulte en chef ». Bon, on va laisser les gens réfléchir là-dessus. Alors, c'est les adultes qui sont responsables de ce qui se passe dans les écoles.
Ben oui et non. En fait, moi, c'est sûr qu'on est enfant, qu'on est adolescent, on est influencé par les parents, par les adultes aussi, pas seulement les parents. Mais moi, je défends quand même la thèse que, en fait, ces adultes-là, ils créent un contexte social général parce qu'ils contrôlent les institutions, ils contrôlent les gouvernements, ils contrôlent les médias. Il y a des multimilliardaires, on le sait. Elon Musk est très réactionnaire sur ces questions-là. Il est raciste aussi, mais il a renié sa fille trans. Donc, des journalistes, des polémistes influents. Mais je pense quand même que les jeunes, surtout les jeunes garçons hétéros qui commettent ces violences, ont aussi une part de responsabilité. Ils ne sont pas simplement l'influence, la transposition de ce que pensent leurs parents à l'école. Ils ont aussi leur propre volonté, leur propre motivation. Et je le répète souvent, j'imagine qu'on le sait bien ici, mais qu'il n'y a pas de meilleure manière, je le dis entre guillemets, pour un garçon hétéro de prouver qu'il est hétéro à soi-même et aux autres que de maltraiter des filles et des jeunes garçons que je vais dire efféminés ou en tout cas hors normes. Ça existe depuis vraiment longtemps et c'est pas un phénomène nouveau. Mais ça, évidemment, ça se densifie là, depuis quelques années à cause du contexte.
Qu'est-ce qu'on peut dire qui a changé? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on avait fait des progrès vis-à-vis ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la manière d'évaluer les progrès, ça dépend où on met le curseur du temps. Donc, dans les deux, trois dernières années, c'est pas juste moi. Vous connaissez le gris, évidemment,
oui.
De l'animation, des formations, en fait, de l'animation par des personnes concernées dans les écoles, des binômes, généralement, des personnes de la diversité, et qui l'ont constaté aussi. Il y a eu des études sur les opinions, les préjugés, les stéréotypes des jeunes, plusieurs études, le sexologue Martin Blais, la sociologue Gabrielle Richard, bref, plein d'autres au Québec qui travaillent là-dessus depuis des années. montre que depuis quelques années, ça s'est crispé. Moi, ce que j'essaie de regarder, c'est les actions. Mais évidemment, si on met le curseur un peu plus loin dans le temps, donc au début des années 90-2000, en fait, on est quand même dans une école, dans un environnement scolaire qui est quand même beaucoup plus progressiste et inclusif et égalitaire que les années 70, ou si on remonte encore plus loin, les années 20, les années 30, évidemment, on n'est plus là. Et en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que je dis pas tous les enseignants enseignantes, mais je dirais les programmes scolaires en général, même au niveau de l'UNICEF, de l'UNESCO, les programmes officiels, ils sont plutôt pour le respect des élèves, le respect de leur dignité, le respect de la différence, l'inclusion. Et donc, il y a un progrès général, mais ces jeunes garçons-là qui sont sexistes, homophobes et transphobes dans l'école, des fois, ils ont même l'impression, en fait, qu'ils sont des rebelles, qu'ils se rebellent contre les valeurs officielles de l'école.
Oui, puis ils ont l'impression d'être minorisés alors que c'est pas tout à fait le cas, là.
Exact. Et là, ce qui m'a vraiment troublé, ça, c'est parce qu'en fait, ce livre-là, c'est une version, disons, différente hein, d'un rapport qui a été produit avec la Fédération autonome de l'enseignement. C'est une recherche que j'avais menée dans les dernières années. Le rapport avait été lancé en février. Le livre, c'est autre chose, mais évidemment, ça s'inspire de ce rapport-là. Et dans la conclusion du livre, je rappelle des réactions négatives qu'on avait reçues à la sortie du rapport, dont des polémistes, des animateurs d'émissions de radio, pas celle-ci, pas sur Canal M, là, mais dans d'autres médias qu'on n'aimera pas.
Ici, on est une radio qui... est dans les faits, exact, on n'est pas dans les opinions.
Pour pas leur faire de la publicité, mais pas seulement sur une tribune, on a vu des animateurs qui, en fait, félicitaient les jeunes garçons par rapport à ce que je disais dans les médias ou de
leur comportement. Oui.
Ils disaient, vous comprenez, là, c'est comme mon fils ou les garçons d'aujourd'hui, ils sont tannés, ils sont écœurés, pour reprendre leurs mots, de se faire entrer dans la gorge encore pour reprendre leurs mots, le féminisme, la diversité sexuelle et des genres. Il disait donc, c'est une saine réaction, et j'ai même entendu sur une radio des animateurs qui disaient « bravo les garçons », alors que ce qu'on décrit, là, les faits qui sont rapportés, c'est ce que moi j'appelle de la persécution en fait. Les jeunes de la diversité, les jeunes filles sont persécutées carrément par leurs camarades.
On va prendre un moment pour le dire, là. Il y a des effets... Il y a des conséquences à cette persécution que subissent ces jeunes personnes de la diversité, entre autres, le suicide. Puis on le note là, dans le livre.
Oui. Ça, c'est pas moi qui l'ai documenté. Non. C'est documenté depuis longtemps par d'autres chercheurs et chercheuses. Tout à fait. Bon, la baisse d'estime de soi, c'est évident. Un sentiment d'aliénation dans l'école, donc évidemment des problèmes scolaires possibles. C'est vrai aussi pour les filles hétéros hein, qui peuvent aussi être intimidées, harcelées, tout ça. Et pour les jeunes, la diversité, ça, c'est bien connu. Et oui, malheureusement, effectivement, tu fais bien de le dire, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires et même, malheureusement, jusqu'au passage à l'acte.
Et il y a aussi des meurtres qui ont été commis. On l'a vu peut-être
pas au Québec.
Pas au Québec, mais aux États-Unis, entre autres.
En Angleterre aussi. Et des cas de suicide qui sont liés à ces situations-là qui ont été rapportées par les médias aussi. Donc mais les cas de meurtre sont complètement hallucinants. Il y a un cas, entre autres, évidemment, c'est totalement exceptionnel, mais disons que ça montre jusqu'à où ça peut aller. Et les deux jeunes qui avaient tué à plusieurs coups de poignard leur camarade parce qu'ils étaient trans ont été condamnés. Le juge a nommé que c'était un crime haineux contre les trans.
Bon, on va essayer d'avoir quand même un petit peu de lumière dans tout ça, parce que face à tout ce mouvement d'extrême droite conservateur qui s'organise, il y a quand même de la résistance qui, elle aussi, s'organise tant chez les élèves que chez les professeurs ou le personnel.
Oui, absolument. Donc, moi, j'aime bien... Bon, là, je vais spoiler un peu la fin du livre, je suis désolé, mais...
Non, il se marie pas
à la fin, mais j'aime bien finir avec une touche d'espoir. Donc, en fait, il y a deux touches d'espoir, je dirais, dans le livre. Mm-hmm. Il y a la fin, je rappelle, en fait, des bonnes pratiques au niveau de la pédagogie de l'enseignement qui m'ont été partagées par des enseignants enseignantes. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a des jeunes, soit des jeunes directement concernés ou des jeunes solidaires qui se mobilisent aussi, qui peuvent faire des manifestations, qui peuvent protester, qui peuvent faire des fois des contre-manifestations quand il y a des manifestations haineuses. Et puis, le livre s'ouvre par une préface d'une personnalité célèbre.
Barbada.
La drag queen Barbada, qui avait été, on se rappelle, là, au printemps 2023, sur la rive sud de Montréal, elle faisait une lecture de contes pour enfants, puis il y avait eu une manifestation contre. Ça, c'est quelque chose que je documente, là, qui a lieu aussi dans d'autres pays, souvent avec d'ailleurs des néo-nazis dans les manifestations, malheureusement. Et donc, je lui ai demandé d'écrire une préface, et disons que c'est une préface lumineuse, porteuse d'espoir, vraiment optimiste, par rapport à l'intelligence individuelle et collective des jeunes hein, aussi. Et donc, ça fait du bien.
Puis j'aimerais rappeler aussi hein, la journée du Chandail Rose, ça a quand même été une initiative.
J'en parle dans des
voix. Oui, ce qui est intéressant, qui est une initiative de la Nouvelle-Écosse. Un élève qui dit, on en a assez de voir nos amis se faire intimider. On va tous porter un chandail rose hein, pour soutenir cette personne. Et ça a pris une ampleur, c'est presque partout
mondial.
Au pays.
C'est mondial maintenant. Oui.
Alors, il y a quand même des bons côtés à tout ça. Puis je pense que ça fait du bien aussi, quand on termine la lecture, de voir ça. Francis Dupuy-Déry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette recherche et de venir nous en parler ici à Canal M, à l'émission Au quotidien. Merci beaucoup.
Bon courage.